il est 19h. Sébastien Paour pour l'info. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir à tous. Fatiguée, enrouée, Theresa May tente de faire valider son accord de Brexit par les députés britanniques. Elle prévient que la sortie de l'Europe pourrait être perdue en cas de rejet. Vote dans une heure au Parlement. Nous sommes à Londres dès le début du journal. Bouteflika renonce. La rue reste mobilisée en Algérie. Les manifestants veulent un vrai changement, vous les entendrez. La classe politique française salue un premier pas. Au sommaire également ce soir, le Boeing 737 MAX interdit de vol partout en Europe, dans d'autres pays aussi. Les contrats français en Éthiopie, Emmanuel Macron est à Addis Abeba. Bernard Tapie, tel qu'en lui-même, a son procès pour escroquerie. Rencontre avec l'inventeur d'Internet, c'était il y a tout juste 30 ans. Et puis le temps des giboulées et du vent demain. Les députés britanniques vont-ils valider l'accord de Brexit négocié par Theresa May à Bruxelles? On a de gros doutes après le rejet de la première version du texte mi-janvier à la lumière des dernières 24 heures et à 17 jours maintenant de la date prévue du divorce. Le vote aux communes a lieu dans une heure. Bonsoir Antoine Gignot.
Bonsoir.
La première ministre a tenté une dernière fois cet après-midi de sauver l'accord.
Et il suffit d'entendre le son de sa voix pour comprendre toute l'ampleur de la situation. Theresa May, épuisée, presque à faune, rappelle les enjeux, la garantie des droits des expatriés, le contrôle des finances publiques, l'immigration. Mais personne en face n'écoute vraiment. Mathématiquement, les jeux sont faits. Les travaillistes, les libéraux-démocrates, les verts, les écossais, les unionistes vont voter contre son texte. Et les conservateurs, loin de soutenir la première ministre, en profitent pour régler leurs comptes. À l'image d'Anna Soubry, qui a quitté le parti il y a quelques semaines pour protester contre la gestion du Brexit.
Il y a 2 ans, j'ai dit à la Première ministre qu'on pouvait trouver un compromis au Parlement, avec un scénario où le Royaume-Uni resterait dans le marché unique et dans l'union douanière. Ça nous aurait permis de tenir les promesses faites lors du référendum en supprimant le problème de la frontière irlandaise et en rassurant les entreprises. Mais elle n'a pas voulu écouter. Si c'est compliqué aujourd'hui, c'est parce qu'elle est restée campée sur ses positions.
Alors projetons-nous dans les prochaines heures, Antoine, quels sont les scénarios possibles maintenant?
Eh bien, si les députés rejettent l'accord ce soir, le scénario le plus probable, c'est un report pur et simple du Brexit. Les députés diront jeudi s'ils maintiennent ou pas la sortie de l'Union européenne prévue à la fin du mois. Et Theresa May, dans une ultime tentative pour reprendre la main, les met en garde ce soir.
Si on demande un report du Brexit, il y a un risque que le Parlement n'arrive jamais à trouver un compromis. Et au final, on sortirait de l'Union européenne sans aucun accord. Si ça se produit, ça ne servira à rien de rejeter la faute sur l'Union. Les responsables, c'est nous. Nous ne sommes pas capables de nous rassembler dans l'intérêt national pour mettre en place ce que les citoyens britanniques ont décidé en 2016.
Et fin du suspense, donc maintenant, dans un peu plus d'une heure.
Antoine Gignot, en direct de Londres. Merci Antoine, et on suivra donc avec vous les votes mercredi ou jeudi, selon que l'accord est rejeté ou validé ce soir. Toujours en lien avec le Brexit, le gouvernement français débloque 14 millions d'euros pour les douaniers français également. Ils sont en grève du zèle depuis 10 jours pour dénoncer leurs conditions de travail à l'approche de ce divorce. Les syndicats plutôt satisfaits doivent maintenant discuter de la suite de leur mouvement. L'Europe encore, où les affaires vont de moins en moins bien pour Boeing, son 737 MAX est de plus en plus sur la sellette après l'accident du vol Addis Abeba-Nairobi dimanche et celui d'octobre en Indonésie. L'Agence européenne de la sécurité aérienne suspend ce soir tous les vols alors que de plus en plus de pays le faisaient depuis quelques heures, dont la France, Oman, la Malaisie, Singapour, l'Australie ferment leurs espaces aériens à l'appareil également. La Corée du Sud immobilise 2 avions. Et chez vous, aux États-Unis, bonsoir Grégory Phillips.
Bonsoir Sébastien.
L'autorité de l'aviation civile ne remet pas en cause pour l'instant la fiabilité du Boeing, mais c'est de la Maison-Blanche que vient la première salve.
Oui, dans 2 tweets publiés en milieu de matinée sur Twitter, Donald Trump a commenté pour la première fois la catastrophe aérienne de dimanche en Éthiopie et dans laquelle 8 Américains sont morts. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ses propos sont étonnants. Les avions sont devenus beaucoup trop complexes à piloter, écrit le président des États-Unis. Désormais, il n'y a plus besoin de commandant de bord, mais d'informaticien du MIT. Moi, je préfère qu'on n'ait pas besoin d'être Albert Einstein pour piloter ces appareils. Alors, nul doute que chez Boeing, le message sera reçu comme une claque, alors que le constructeur répète depuis dimanche que cet appareil est sûr. malgré deux accidents mortels en moins de 5 mois. De son côté, vous l'avez dit, l'autorité américaine de sécurité aérienne dit qu'elle continue à faire confiance en ses appareils, mais le régulateur est actuellement administré par la secrétaire au transport, Hélène Chao, et il est certain qu'un éventuel retrait de ces avions aux États-Unis serait prise au plus haut niveau. Cette décision sera prise au plus haut niveau, c'est-à-dire à la Maison Blanche.
À la Maison Blanche, on a bien compris. Merci Grégory Phillips en direct de Washington. L'autre actualité ce soir, c'est encore l'Algérie. 24 heures après l'annonce du retrait d'Abdelaziz Bouteflika de la présidentielle et du report de l'élection, les Algériens klaxonnaient hier soir. Ils étaient encore dans la rue par milliers aujourd'hui dans plusieurs villes du pays. Ils dénoncent la ruse du président, réclament la fin du système et des réformes politiques. Il faut aller plus loin pour Marwan, qui encourage les plus jeunes à rester mobilisés. Il est au micro à Alger de Leïla Berato.
C'est une petite victoire, c'est une première étape. C'est aussi important que l'État comprenne qu'on ne va pas s'arrêter. On va voir qu'est-ce que ça va arriver à vendredi prochain, le 15. J'espère qu'il y aura beaucoup de monde. Je suis vraiment, vraiment, vraiment fier de cette victoire. Parce que je vois l'Algérie du futur. Peut-être cette année ou l'année prochaine, on ne va pas avoir des grands changements. Mais avec ces jeunes, je suis sûr et certain qu'il y aura des changements. Parce qu'ils sont conscients de l'importance de ce qu'ils font, vraiment, vraiment mobilisés. On voit qu'il y a une certaine dynamique de on est là, on existe, on va faire quelque chose.
L'annonce du retrait du président Bouteflika a en tout cas fait sortir la France de son silence après 3 semaines de quasi-mutisme. Emmanuel Macron lui-même salue les annonces d'hier depuis Djibouti.
Je salue la décision du président Bouteflika qui ouvre une nouvelle page dans le développement de la démocratie algérienne. Maintenant, il appartient évidemment à l'Algérie que les prochaines semaines et les prochains mois permettent d'assurer dans un délai raisonnable la tenue de cette conférence et son débouché sur des propositions constitutionnelles qui, si j'ai bien compris, donneront lieu à référendum et donc garantissent à la fois transparence, cadre démocratique et une transition d'une durée raisonnable. Et donc je pense que c'est un signe de maturité. Nous ferons tout pour accompagner l'Algérie dans cette transition avec amitié et avec respect.
Au-delà de l'Élysée, quel accueil dans la classe politique française après les annonces d'hier à Alger. C'est un reportage à l'Assemblée de Maxence Lambrec.
Tous saluent d'abord cette décision du communiste Stéphane Peu à l'élu de droite Daniel Fasquel.
Oui, c'est une première victoire, indéniablement.
Et on ne peut que s'en féliciter parce que s'il y a des tensions fortes en Algérie, ça a des conséquences par rebond sur ce qui se passe en France.
Du côté de Marine Le Pen, on craint comme toujours un afflux migratoire. Elle demande donc au gouvernement de suspendre l'octroi des visas aux Algériens et ose un parallèle entre Alger et Paris. En France non plus, dit-elle, il n'y a pas véritablement de démocratie. Jean-Luc Mélenchon va encore plus loin avec une longue note de blog relayée par son ami et député Éric Coquerel.
On ne part pas du même point, mais ce que je constate, c'est qu'il y a une évolution en France d'un régime vers moins de liberté, toujours moins de démocratie parlementaire, le pouvoir dans les mains d'une seule personne, le président de la République, et puis quand même une évolution autoritaire. Je remarque heureusement qu'il n'y a pas eu le même type de répression en Algérie qu'en France, parce que là, aujourd'hui, on ne serait pas en train de célébrer cette première victoire, entre guillemets, avec le sourire.
Ce qui fait évidemment réagir le porte-parole des marcheurs, Alexandre Djebari.
C'est une comparaison malheureuse, mais Jean-Luc Mélenchon est coutumier du fait.
La semaine dernière, très peu osait s'exprimer sur cette crise algérienne, et maintenant, donc, chacun y va de son commentaire.
Emmanuel Macron, lui, dîne ce soir avec son homologue éthiopien à Addis Abeba après une étape sur le site des églises de Lalibela, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les deux chefs d'État devraient parler contrat. Bonsoir Fabien Cazot.
Bonsoir.
Dans ce pays qui connaît l'un des taux de croissance les plus importants du monde.
Une croissance qui se maintient à 10% par an depuis 15 ans, depuis la fin de la guerre fratricide, en gros, contre l'Érythrée voisine. Maintenant que la réconciliation est scellée, les affaires repartent de plus belle. L'Éthiopie, qui n'a pas de littoral maritime, va même pouvoir à nouveau commercer via les ports érythréens sur la mer Rouge, et ça, c'est bon pour les affaires. La capitale, Addis Abeba, se dote de gratte-ciel, d'un tramway flambant neuf, de centres commerciaux grand luxe. L'économie est portée par d'ambitieux plans quinquennaux d'investissement public dans les transports, mais aussi l'énergie, les télécoms, des secteurs qui pèsent de plus en plus lourd dans l'économie éthiopienne, même si l'agriculture reste prédominante, en particulier le café, les légumes et la canne à sucre. Un des objectifs maintenant pour l'Éthiopie, C'est pour cela d'ailleurs que la France se positionne, c'est de développer son parc industriel. Les Chinois sont déjà très présents sur place. La France dans une moindre mesure, avec une cinquantaine d'entreprises et 800 millions d'euros d'exportation par an, principalement dans l'aéronautique et les produits pharmaceutiques.
Fabien Cazot, merci. Les États-Unis, eux, n'apprécient pas le projet de taxe française sur les géants du numérique. Google, Apple, Facebook et Amazon notamment. Le Trésor américain la juge mal conçue, cette taxe, et Washington réfléchit à la manière d'y répondre, peut-être en saisissant l'OMC. L'Amérique est aussi contre le projet britannique et prône une discussion au sein de l'OCDE pour une réforme fiscale globale. Mais jusqu'ici, Pierre-Yves Dugas, les divisions européennes rendent service aux firmes américaines.
Jusqu'à présent, Washington comptait sur les divisions au sein de l'Union européenne pour empêcher le projet français de taxation des GAFA d'aboutir. La peur de l'Allemagne de voir bientôt surtaxer les Volkswagen, Mercedes et BMW contribue aussi à la réticence de Berlin sur ce dossier. Washington est choqué. Pour la première fois, on parle d'imposer une entreprise sur la base de son chiffre d'affaires et non pas de ses bénéfices. Et les entreprises visées sont essentiellement, de facto, américaines. Le potentiel pour des mesures américaines de rétorsion est donc élevé. Alors que les GAFA rappellent qu'elles payent à ce jour tous les impôts européens auxquels elles sont assujetties, Chip Harder, le spécialiste du Trésor américain sur les questions de fiscalité, dénonce le plan français, confirme que des recours auprès de l'OMC ou d'ailleurs sont envisagés pour le bloquer.
Réponse de la France par la voix du patron de Bercy, Bruno Le Maire, au micro de Pierre Benazet.
La France est un État libre et souverain qui décide de sa taxation et qui le décide librement et souverainement. Donc cela ne remet absolument pas en cause le projet de loi qui sera étudié à partir du 4 avril à l'Assemblée nationale. Le mieux est que nous arrivions à un consensus à l'OCDE. Car dès qu'il y aura une taxation internationale, la France retirera sa taxe nationale. Il est toujours préférable d'avoir une taxation internationale. Nous sommes tous d'accord, tous les États européens, pour obtenir une décision au niveau de l'OCDE en 2020. Ça veut dire qu'on ne pourra plus avoir un impôt sur les sociétés qui soit d'un niveau trop faible et qui permette à des grandes multinationales de retirer leurs bénéfices de France, d'Allemagne, d'Italie ou d'Espagne pour aller implanter leurs bénéfices ailleurs, payer moins d'impôts, alors qu'elles ont profité du marché unique et de la richesse européenne.
Le ministre de l'économie annonce aussi la création de 200 emplois dans une usine Safran à Bordeaux, avec potentiellement 30 à 50 salariés de Ford Blanquefort reclassés sur le site. Il n'y aura plus une tête, mais un trio aux commandes de Renault, Nissan, Mitsubishi. Fini l'époque de la toute puissance de Carlos Ghosn, place à un conseil opérationnel présidé par le président de Renault, Jean-Dominique Senard, et où siégeront les directeurs généraux des trois constructeurs. L'alliance prend un nouveau départ à l'occasion du conseil d'administration de Nissan, c'était ce matin à Yokohama. Avec cette concession française, Renault et donc l'État cèdent la présidence de Nissan. Jean-Dominique Senard sera candidat au poste de vice-président du constructeur japonais.
France Inter, le journal de 19h. Sébastien Paour.
Le procès Tapie est entré dans le vif du sujet. L'homme d'affaires est jugé pour escroquerie dans l'arbitrage qui lui avait octroyé près de 404 millions d'euros en 2008 pour solder son litige avec le Crédit Lyonnais. Sarah Guibaudot, le procès commence vraiment et Tapie fait du tapis.
Pendant 2 heures, Bernard Tapie écoute la présidente résumer le dossier en faisant des commentaires à voix basse. À un moment, il explose. « Vous êtes en train de nous lire une fable. Vous allez pouvoir le dire, calme la présidente. » Et quand vient son tour, Bernard Tapie sort sa palette d'acteurs. Il parle fort, s'adresse tour à tour à chaque côté de l'auditoire. Sur une question du procureur, il s'approche de l'estrade et emprunte les lunettes du magistrat pour lire un document. Bernard Tapie redonne sa version de la vente d'Adidas. Non, il n'était pas acculé par les difficultés financière, mais ce n'était pas compatible avec son entrée au gouvernement en 1992. Vous ne pouvez pas être ministre d'un gouvernement de gauche et entamer un plan de délocalisation qui allait voir des milliers d'Européens perdre leur emploi, explique-t-il aussi. Bernard Tapie se pose en victime du Crédit Lyonnais ou du pouvoir. C'est comme en Corée du Nord, dit-il d'un épisode de l'affaire. Et on cherche pourquoi j'ai un cancer de l'estomac. Au bout de 2 heures, la fatigue le rattrape. « Ça va, vous voulez une suspension ?»« Non, répond-il, je suis tellement content de vous expliquer tout ça. » Suspension accordée néanmoins, suite de l'interrogatoire demain.
Sarah Guibaudeau a un nouveau revers en justice pour Europa City, le projet de parc d'activités géant au nord de Paris. Le plan local d'urbanisme est annulé. Le tribunal s'oppose à l'urbanisation de 248 hectares de terres agricoles. La ville de Gonesse dans le Val d'Oise fait appel. La pollution de l'air fait plus de morts chaque année dans le monde que le tabac. D'après l'OMS, le tabac tue 7 millions de personnes tous les ans. La pollution, c'est 8 800 000 morts. D'après une étude rendue publique aujourd'hui, 790 000 en Europe, 67 000 en France. L'Europe peut donc rapidement faire évoluer sa réglementation et notamment le seuil limite de tolérance aux particules fines. D'après le docteur Gilles Dixot, président du Comité national contre les maladies respiratoires et membre de la Fondation du Souffle, il est au téléphone avec Lisa Guyenne.
Les valeurs limites que l'on utilise en Europe sont beaucoup plus élevées que les valeurs limites qui sont fixées par l'OMS. Et en plus, ce qu'on continue à faire, c'est à mesurer des polluants grossiers qui sont de moins en moins présents. Les polluants d'autrefois, c'était les polluants du charbon, des locomotives à vapeur et des véhicules diesel qui fumaient, c'est-à-dire c'était des particules grossières. Les évolutions des techniques ont fait que les particules sont devenues de plus en plus fines et on ne les voit plus maintenant. Si vous vous situez en milieu urbain, les particules proviennent en grande partie du trafic, mais aussi de certains polluants comme le dioxyde d'azote, avec de l'ammoniac qui va par exemple provenir de l'agriculture, voire aussi des véhicules. Donc il est évident que si on veut être efficace, il faut se fonder d'abord sur les polluants actuels, et non pas les polluants d'il y a 50 ans, et sur les valeurs limites recommandées par l'OMS.
Cela fait tout juste 30 ans qu'il a vu le jour et qu'il occupe une bonne partie de nos journées, le web, le 12 mars 89. Un physicien britannique du CERN à Genève rend un mémo à sa hiérarchie qu'elle trouve intéressant mais trop vague. Tim Berners-Lee vient juste d'inventer Internet. 30 ans plus tard, le réseau mondial est évidemment partout dans nos vies et son papa est de retour en Suisse pour l'occasion. Jérémy Lange l'a rencontré en marge du Festival international des droits de l'homme.
Please help me welcome Sir Tim Berners-Lee.
Le retour de Tim Berners-Lee à Genève n'a rien à voir avec celui d'une rockstar. Le nom du Britannique n'évoque pas grand-chose pour la plupart des internautes. Avant d'accepter un prix en 2004, Berners-Lee n'avait jamais touché un centime pour son invention qu'il voulait libre et gratuite. Mais depuis quelques années, il est inquiet devant les dérives de l'Internet.
Pendant 15-20 ans, on avait l'habitude de fêter l'anniversaire du web, mais le Brexit et l'arrivée de Trump ont été un tournant. Les résultats de ces élections ont été biaisés. Les réseaux sociaux qui ont été créés avec les meilleures intentions du monde ont au final permis la création de très gros groupes conspirationnistes. C'est là que j'ai compris qu'il ne suffit pas d'avoir un web libre et gratuit, il faut aussi s'assurer qu'il soit constructif.
Fake news, collecte de données personnelles par les GAFA, Internet serait menacé selon Tim Berners-Lee. Le physicien propose de lui apporter une amélioration. Il appelle à un contrat pour le web pour revenir, dit-il, à la science et aux faits et garantir le respect de la vie privée. Genève, Jérémy Lange, France Inter.
Et si vous voulez tout savoir sur l'histoire cachée des mèmes les plus populaires et si vous ne savez pas ce qu'est un mème, eh bien rendez-vous sur franceinter.fr. Est-ce le début de la fin des combats à Baghouz? Prudence, elle a souvent été envisagée ces dernières semaines. Les forces démocratiques syriennes annoncent en tout cas qu'environ 2000 personnes se sont rendues aujourd'hui, en majorité des djihadistes, retranchés dans la dernière poche de résistance du groupe État islamique en Syrie. Une enquête ouverte contre Juan Guaido au Venezuela, enquête pour sabotage électrique. Le pays est plongé dans le noir quasi complet depuis 5 jours à cause d'une coupure de courant. Le président Nicolas Maduro accuse l'opposant autoproclamé président par intérim. On termine avec un détour à Dijon où le PSG retrouve le terrain de la Ligue 1 après son élimination de la Ligue des Champions. Bonsoir Jean-Pierre Blimeau.
Bonsoir Sébastien.
Objectif, rester en tête au classement, ça c'est jouable. Et surtout reconquérir un peu les supporters aussi.
Oui, la tête du classement, ça ne fait aucun doute puisque les Parisiens sont en route vers un nouveau titre de champion de France. Mais surtout, c'est vrai, reconquérir le public du Paris Saint-Germain, les ultras et qui ont été très fâchés ce week-end en assistant notamment à l'entraînement de dimanche au Parc des Princes et en insultant copieusement les joueurs. Mais surtout, un public parisien qui a boudé ce déplacement puisqu'il n'y aura pas de supporters ultras ce soir dans les tribunes de Dijon. Et pour le moment, les joueurs du Paris Saint-Germain, eh bien, remplissent leur mission, Sébastien, puisqu'ils mènent 1 à 1-0. Un but du Brésilien Marquinhos, le défenseur, qui est monté mettre sa tête sur un corner venu de la droite. Une équipe du Paris Saint-Germain, bien que toujours privée de Neymar, de Cavani qui a été ménagé, mais aussi de l'Allemand Draxler blessé pour plusieurs semaines et du Brésilien Alves suspendu. Eh bien, cette équipe parisienne n'a d'autres ressources que d'essayer de bien terminer sa saison. Et cela commence par ce soir à Dijon. Pour l'instant, le PSG mène 1-0 et surtout commence à préparer correctement le prochain match qui sera un certain Paris Saint-Germain-Marseille.
Et ce sera une autre paire de manches. Merci Jean-Pierre Blimeau en direct de Dijon.
La météo avec Préfonds, la retraite et la prévoyance de la fonction publique. Les jeunes fonctionnaires font le bon calcul sur préfonds-retraite.fr.
Bonsoir Sébastien Léas.
Bonsoir Sébastien, bonsoir à tous.
Pluie cette nuit, averse demain ?
Oui, la pluie qui a touché le nord-ouest cet après-midi et qui s'étend actuellement entre le nord, l'Île-de-France, le Poitou et l'embouchure de la Gironde va progressivement glisser ce soir vers la Lorraine, la Bourgogne, le Massif central et le sud-ouest. Une partie de cette perturbation va venir se bloquer le long des Pyrénées, persistant jusqu'à demain, et l'autre va s'évacuer en cours de nuit vers l'est. Demain, c'est un régime d'averse qui va se mettre en place sur la majeure partie du pays, avec un ciel le plus souvent nuageux. Ces averses pourront prendre un caractère orageux, accompagnés de grésils et donneront de la neige des 500 à 1000 mètres d'altitude. Et des éclaircies plus nettes vont se dessiner demain après-midi entre le nord de la Nouvelle-Aquitaine, la Bretagne et la Normandie. Et la journée sera encore plus ensoleillée sur le Roussillon et entre la Camargue, les Alpes du Sud et la Côte d'Azur. Mais il faudra composer avec du vent soutenu.
Et les températures seront en baisse l'après-midi.
Oui, après un après-midi plutôt doux aujourd'hui, notamment dans le sud-ouest où les 20 degrés ont été dépassés, comme à Tarbes, Pau, Mont-de-Marsan, Biarritz ou encore Dax, les maximales retrouveront des valeurs plus proches des normales demain. On attend 11 degrés à Brest, au Havre et à Mulhouse. 12 degrés à Lille, Tours, Toulouse et Clermont-Ferrand et 13 degrés pour Paris, Cognac et Grenoble. Température un peu plus élevée autour de la Méditerranée. 16 degrés à Nîmes et à Nice et jusqu'à 18 degrés pour Calvi et Saint-Tropez.
Sébastien Léas, Météo France, merci.